Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agriculture et au système alimentaire à travers la colère des agriculteurs et le rapport du Haut Conseil pour le climat.
Une cinquantaine de tracteurs en plein Paris. Ils voulaient marquer les esprits. Opération réussie.
Pourquoi est-ce que les agriculteurs sont en colère ?
Faire reconnaître la souveraineté alimentaire française faite par les agriculteurs français.
Les importations déloyales, la surcharge de normes, qu'elles soient administratives ou environnementales, et puis l'agriculture bio, qui, malgré des injonctions du gouvernement, n'est pas du tout soutenue.
Il y a un point commun entre tous ces agriculteurs, c'est de viser l'Union européenne et ses normes jugées trop strictes.
Et pour discuter des politiques alimentaires et agricoles à mettre en place face aux enjeux du réchauffement climatique, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour.
Bonjour.
Et en deuxième partie d'épisode, j'aurai le plaisir de recevoir Marion Guillou, qui est membre du Haut Conseil pour le climat, qui vient de publier un rapport pour un système alimentaire bas carbone, résilient et juste. On y revient dans quelques minutes. Mais Sylvestre, pour commencer l'épisode, est-ce que tu peux déjà nous rappeler pourquoi est-ce que la transition climatique est tellement importante pour le secteur agriculture, à la fois ce que représente ce secteur pour les gaz à effet de serre, et aussi pourquoi est-ce que les impacts du réchauffement climatique sont tellement importants pour le système agricole ?
Donc, au total, les activités agricoles émettent environ 80 millions de tonnes équivalent CO2 par an, un chiffre qui est quand même incertain, à peu près à 15% sur son total. Et la plus grosse incertitude, qui tourne autour de 40%, c'est pour le secteur qu'on appelle utilisation des terres, c'est-à-dire le changement d'usage d'un sol quand il passe de prairie à champ ou à champ à forêt ou forêt à prairie ou forêt à champ. Ça, c'est très mal mesuré. Mais l'empreinte carbone alimentaire totale de la France, elle est plus élevée que les émissions purement agricoles et elle se monte à environ 140 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Et cette empreinte, elle inclut les émissions du secteur agricole, elle y ajoute les autres composantes de l'alimentation et, comme c'est une empreinte, elle enlève en revanche tout ce qui est exporté par la France à l'étranger. Et comme c'est un calcul en empreinte carbone, donc on enlève ce qui est lié aux exportations de la France, et en revanche, on ajoute ce qui est lié aux importations de la France. Et ces importations représentèrent en 2018 63 millions de tonnes équivalent CO2. Et c'est important parce qu'on a une forte évolution. En 20 ans, les importations de viande, de préparation de volaille ont été multipliées par 4, par exemple. En revanche, pour les viandes bovines ou de porc, il y a de l'import, mais il y a aussi de l'export, et en fait, les quantités exportées et importées sont similaires. En revanche, les qualités sont assez différentes. Et les importations, vous savez, elles sont massives pour les fruits, les légumes, les poissons, les crustacés. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette empreinte, elle est importante, elle est difficile à diminuer, notamment tout ce qui tourne autour des émissions de méthane du cheptel. Et puis, dans l'autre sens, les impacts du changement climatique sur l'agriculture se font déjà sentir, notamment avec les pertes de production lors des épisodes de canicule et de sécheresse très sensibles en 2003 ou en 2022, ou dans l'autre sens, lors des inondations en 2010, 2016, 2023 qui ont gêné les semis, par exemple, des agriculteurs.
Gilles, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ?
Bon, d'abord, moi, je suis très content, en effet, qu'on ait cet épisode-là qui tombe justement sur l'agriculture au moment d'une activité sociale très intense, hein, qu'on vient de voir, et aussi au moment pile où le Haut Comité sur le climat rend son rapport sur l'agriculture. Donc, l'agriculture, c'est important, c'est le deuxième poste, le deuxième contributeur national au CO2, 22%, et c'est peut-être le poste le plus difficile à comprendre parce que quand on parle des transports, de l'isolation, on voit bien ce que c'est. L'agriculture, on croit qu'on voit, mais l'agriculture, ce n'est pas le problème du tracteur et de son fuel seulement. C'est surtout le problème des intrants, du méthane, du N2O. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué que Marion Guillou va bien expliquer. Mais là où je voudrais en arriver un peu, sur mon deuxième point, c'est le fait que ce qu'on vient de vivre, là un peu, enfin moi, qui suis juste un scientifique, hein, ça me fait penser, si vous voulez, à ce qu'on appelle dans le GIEC la maladaptation. C'est-à-dire que vous êtes là avec un pouvoir qui s'adapte très mal au changement climatique. C'est-à-dire que quand il veut prendre des mesures, elles sont mal adaptées. Du coup, c'est l'échec. C'est ce qu'on a vu pour les bonnets rouges, pour les gilets jaunes, et ce qu'on vient de voir là avec cette fin, finalement, sur les pesticides que chacun a pu noter. où finalement on revient complètement en arrière. Et ça, c'est vraiment lié à la maladaptation. La maladaptation, c'est quoi? Bah, c'est le fait qu'on n'a pas de politique de long terme où on va accompagner les gens à la transition. Comme on ne les accompagne pas, tout à coup on prend une mesure qui fait qu'elle est insupportable socialement et c'est l'échec global. Et ça fait quand même 3 fois que ça arrive massivement et je pense qu'il faut en tirer des conclusions.
Alors on va discuter de tout ça avec Marion Guillou, mais Sylvain, je me tourne vers toi. Toi, quelles conclusions tu tires du mouvement en cours et des réponses qui ont été apportées? Et qu'est-ce que ça nous dit sur les difficultés finalement pour le secteur agricole pour faire face à cette transition écologique?
Bah, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans le monde politique, dans les pouvoirs politiques, et aussi du côté du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA. Pourquoi? Parce que la difficulté majeure de l'enjeu agricole dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a une opposition frontale entre les principes fondamentaux des politiques agricoles actuelles de l'Union européenne et des États de l'Union européenne et ce qu'exigerait une politique climatique et environnementale efficace. Ces principes fondamentaux, ça a été l'abandon progressif et effectif depuis 20 ans de la politique des quotas de production européens, nationaux et au niveau des exploitations agricoles et de la régulation des prix que cela permettait au bénéfice de mécanismes de marché qui mettent tous les agriculteurs en situation de concurrence les uns contre les autres et de concurrence contre les importations. Cette transformation fondamentale de la politique agricole commune par rapport à ce qu'elle a été dans les années 60 et 70 a produit des mécanismes qui ont accentué la spécialisation des territoires, alors qu'elle était déjà trop forte il y a 30 ans pour permettre une agronomie fondée sur la synergie entre production animale et production végétale. Ça a accentué la volatilité des prix payés aux agriculteurs, qui sont en outre la plupart du temps en position de faiblesse pour toute négociation de prix avec les acheteurs. Et ces deux évolutions pousse les agriculteurs à intensifier le recours aux intrants, aux pesticides, aux engrais et à l'augmentation des tailles des exploitations et donc à leur diminution en nombre pour contrebalancer les effets négatifs sur les revenus et leur stabilité de la politique agricole suivie. Et donc, pour développer une agriculture durable, il faut stabiliser les revenus des exploitants et rémunérer les actions climatiques et écologiques qu'on leur demande de réaliser. Et pour y parvenir, il faut s'interdire de vouloir accéder à des prix bas alimentaires par l'importation et la concurrence intra- et extra-européenne et donc gérer autrement le problème des prix alimentaires pour les familles populaires.
Eh bien, merci à tous les deux. On va maintenant approfondir ces questions en discutant du rapport publié par le Haut Conseil pour le Climat avec notre invité. Marion Guillou, bonjour, bienvenue dans le Climat en question et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode.
Bonjour Céline Rammstein.
Alors vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat, spécialiste des questions d'agriculture. Et je le disais, le Haut Conseil vient donc de publier un rapport sur le système alimentaire et la transition écologique. Et dans ce rapport, il évalue la mise en œuvre des politiques et des mesures mises en place par l'État ou les collectivités territoriales pour l'action climatique dans le secteur de l'agriculture. Et ça couvre à la fois les actions pour diminuer les émissions d'atténuation ou pour s'adapter au réchauffement climatique, l'adaptation. Et alors, je voudrais d'abord vous interroger sur le message clé là-dessus, où est-ce qu'on en est? Moi, mon sentiment à la lecture, c'était qu'on est quand même encore très loin des objectifs, même si quelques progrès ont été faits. Mais j'ai été surprise, par exemple, de noter qu'il y a eu des progrès en termes de baisse des émissions du bétail, mais qu'ils semblaient davantage être liés aux difficultés de la filière, et donc à la réduction du nombre de bêtes, tout simplement, plutôt qu'à des actions stratégiques pour agir sur le climat.
Alors, bon, d'abord, il faut voir aussi le côté du verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse des émissions du secteur agriculture au cours des dernières années. Ce que dit le rapport, c'est que le schéma français est fait pour qu'on arrive à la neutralité carbone en 2050, et un des seuls secteurs qui ne pourra pas se décarboner, parce que les émissions sont essentiellement liées à des processus biologiques, c'est le secteur agricole. Et donc les choses sont dimensionnées, les stratégies nationales sont dimensionnées pour qu'en 2050, les émissions agricoles soient compensées par les puits de carbone forestiers. Mais comme vous le savez, le changement climatique a malheureusement eu des effets aussi sur les forêts. Et on a constaté ces dernières années une baisse des puits de carbone dans les forêts, d'où la nécessité d'accélérer les réductions des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. En fait, ce que dit le message, ce n'est pas que l'agriculture n'a rien fait, puisqu'on a le secteur de l'agriculture a rempli les objectifs de la stratégie nationale bas carbone tels qu'ils étaient établis, mais l'avenir exige que l'agriculture accélère cette diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, cela demande donc des vrais efforts, mais aussi un vrai accompagnement. Et c'est pour ça que le parti pris de notre rapport, c'est de non pas de parler de l'agriculture isolée, mais bien de parler des systèmes alimentaires.
Oui, alors justement, j'aimerais qu'on en vienne à cette notion de système qui est tout à fait centrale dans le rapport, puisque l'objectif, c'est de ne pas tout mettre sur l'agriculteur, mais de regarder à la fois l'ensemble de la filière et vraiment du producteur au consommateur. C'est ça que ça veut dire concrètement?
Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on fasse comme dans d'autres pays en disant, bah, écoutez, il n'y a qu'à diminuer le cheptel bovin. Donc, il n'y a qu'à diminuer le nombre d'animaux élevés en France. Or, on a diminué, comme vous le disiez, du fait de la situation socio-économique des éleveurs, hein, qui est souvent difficile. Le cheptel bovin en France n'a pas arrêté de diminuer. Mais pendant ce temps-là, la consommation de viande n'évoluait pas à la même vitesse et de fait, les importations ont augmenté. Et paradoxalement, et on dit dans le rapport, il y a un certain nombre d'importations, notamment les importations extra-européennes, hein, celles dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias avec le Mercosur, qui sont plus émettrices de gaz à effet de serre que la production en France. Et donc, paradoxalement, si on ne met pas avant tout le message diminuer la consommation de protéines animales, le message sur les élevages ne sert à rien, il sera négatif. Et c'est bien pour
Oui.
ça que notre rapport adopte volontairement un point de vue qui est assez original, mais à mon avis beaucoup plus efficace, qui est le système alimentaire dans son ensemble.
Oui, donc c'est bien pour ça qu'il faut cette approche système, quoi. Si on prend juste un bout de la chaîne, ça suffit pas. Et les agriculteurs français risquent même de se faire avoir, puisqu'on va finalement de facto encourager des importations de produits moins chers, mais qui ont une empreinte carbone beaucoup plus forte.
Alors écoutez, oui, on a essayé d'avoir hein, une approche système qui porte donc sur la production, la transformation, la logistique, la restauration, hein, puisque c'est un des lieux où on consomme de plus en plus, hein, hors foyer, et puis la consommation à domicile, donc l'ensemble. Alors que traditionnellement, les mesures en France et en Europe portaient plutôt soit sur les producteurs, soit sur les consommateurs. Là, on dit on ne peut pas changer un système avec une certaine ambition, hein, puisque c'est bien le propos de ce rapport, sans regarder l'ensemble. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, le système alimentaire, donc le se nourrir en France, c'est 22% de l'empreinte carbone des Français. Donc 22% de l'empreinte carbone, c'est pas mal. Et ces 22%, il y en a un petit peu moins, donc on importe globalement à peu près 20% de la nourriture, et pourtant l'empreinte carbone des importations représente au total à peu près 46%. Donc là encore, il ne sert à rien de regarder le seul système de production sur notre sol si il n'y a pas une évolution de l'ensemble de la chaîne, parce que c'est bien si la consommation change, si la restauration propose des produits différents, si la distribution met en avant des produits bas carbone. Si les industries alimentaires font attention aux lieux où elles sourcent leurs produits, c'est bien à ces conditions-là, ces multiples conditions-là, donc ces divers éléments d'intervention sur des stades de la chaîne, qu'on pourra être réellement efficace.
Mais alors du coup, très concrètement, comment est-ce que ces différents acteurs peuvent arriver à travailler ensemble pour diminuer l'intensité carbone des produits qu'ils proposent, et puis peut-être aussi bah, proposer de nouveaux produits, encourager des nouvelles formes de consommation, voire des changements de comportement à long terme?
Si vous voulez, je peux vous donner un exemple concret, un autre exemple concret. Vous voyez, on a constaté qu'on était déficitaire en protéagineux. Alors, les protéagineux sont les lentilles, les pois, vous voyez, tout ce qui contient les protéines végétales d'une certaine manière. Donc, on est déficitaire, on importe, mais ça ne sert à rien de faire une politique agricole pour encourager les agriculteurs à cultiver plus de protéagineux. Vous savez que ces plantes-là ont la capacité d'absorber l'azote de l'air et de le mettre dans le sol, et donc nécessitent moins d'engrais et donc sont favorables évidemment pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le jackpot d'arriver à augmenter les cultures de protéagineux en France et en Europe. Il y a des tas de politiques incitatives, mais ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que pour que les agriculteurs cultivent plus de protéagineux, non seulement il faut qu'ils aient de bonnes semences et des moyens de s'assurer de l'état sanitaire de leur culture, mais il faut aussi qu'il y ait une filière pour stocker, transformer, commercialiser et vendre à des consommateurs que les protéagineux intéressent. Aujourd'hui, il y a donc une politique d'incitation des agriculteurs, des consommateurs qui sont demandeurs, hein, puisqu'on importe, mais on n'a pas la chaîne entre les deux. D'où l'importance, quand on a des objectifs ambitieux en matière de climat pour le secteur agricole et alimentaire, de s'adresser à l'ensemble de la chaîne. C'est pour ça que voilà, le fait de parler de système alimentaire est très important.
Alors pour que cette approche système marche, il faudrait aussi prendre en compte les accords internationaux. On parlait tout à l'heure des accords de libre-échange notamment. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit cohérent et que les agriculteurs ne se retrouvent pas dans une situation de concurrence avec des règles environnementales très différentes entre les pays et avec une empreinte carbone bien plus forte pour les biens importés?
C'est une des raisons pour lesquelles on a mis un message très clair. C'est justement pour éviter ces tiraillements et ces contradictions entre ce que l'Europe fait quand elle négocie un traité avec telle ou telle zone du monde et ce qui est par ailleurs imposé aux producteurs européens. Le Mercosur est un très bon exemple. Donc, c'est intéressant de voir qu'actuellement, ce traité du Mercosur, qui peut être bon pour d'autres secteurs en France, que pourquoi pas, hein, je voyais que certains industriels ou certains patrons s'exprimaient sur le fait que le traité du Mercosur était favorable, mais pour le secteur agroalimentaire, ça n'est pas un traité favorable si on ne met pas ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire si on n'exige pas d'avoir un niveau qualitatif dans les méthodes de production des produits exportés qui sont équivalents, ce niveau qualitatif équivalent au niveau européen.
Oui, c'est-à-dire ce qu'on entend dans les manifs quand les agriculteurs disent on veut avoir tous les mêmes règles, quoi.
C'est-à-dire, oui, c'est quand même assez normal quand on se voit imposer des règles au nom d'un environnement mondial, de se dire que l'Europe, quand elle négocie des importations, pousse les zones d'exportation aux mêmes exigences. Le climat est particulièrement un sujet qui nous concerne tous. Donc, effectivement, il y a convergence. C'est totalement une coïncidence. Hein, je vous demandais tout à l'heure si on avait calculé le timing de sortie. Non, on n'a pas calculé le timing de sortie pour que nos affirmations sur le traité Mercosur arrivent au même moment que les blocages agricoles. Mais il se trouve, en l'occurrence, que les messages vont dans le même sens sur ce traité-là.
Alors, je voudrais maintenant qu'on en vienne à cette notion de justice qui est centrale dans le rapport, hein, puisque son objectif, c'est d'accélérer la transition climatique avec un système alimentaire bas carbone, résilient et juste. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce terme de juste, parce que dans les mobilisations actuelles, justement, on parle pas beaucoup de bas carbone ou de résilient, ou alors pour se plaindre des normes, là, comme on le disait à l'instant, mais par contre, on parle beaucoup de justice et des difficultés économiques des paysans. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé pour l'instant, ou pour le dire plus positivement, comment est-ce qu'on fait cette transition de façon juste dans un secteur qui, aujourd'hui, traverse une crise assez grave?
Alors, le mot juste est porteur de plusieurs, enfin, se décline sur les différentes composantes. Il faut que ce soit juste vis-à-vis des producteurs, et vous avez sans doute vu dans le rapport qu'on a notamment incité à diriger les aides aux éleveurs, plus particulièrement sur les petits éleveurs qui sont en difficulté. Donc, la justice dans la distribution des aides agricoles et la justice vis-à-vis des consommateurs. Parce que si on impose un message extrêmement fort sur la diminution de la consommation de viande, comme vous le savez, la consommation de viande, elle est socialement différenciée. Et de fait, les populations défavorisées sont des grosses consommatrices de viande, chez qui la consommation de viande est d'une certaine manière un marqueur de plaisir et de sociabilité. Et là aussi, il faut faire attention au message qu'on adresse à ces consommateurs et aux possibilités qu'on leur donne de s'adapter, d'adapter leur comportement au contexte. Et c'est une des remarques du rapport. Donc effectivement, s'ils diminuent leur consommation de viande, ça leur reviendra moins cher. Mais il faut le faire justement en adressant des messages. Ce sera favorable à votre santé, non pas des messages punitifs ou de moralisateurs, mais des messages pour embarquer l'ensemble des gens qui nous écoutent. Donc je dirais aussi bien les consommateurs, y compris les consommateurs qui aujourd'hui sont gros consommateurs de viande malgré un pouvoir d'achat assez faible, et embarquer les producteurs parce que c'est avec eux qu'on arrivera à faire cette transition et pas contre eux.
Et alors comment est-ce que le rapport recommande de s'y prendre? Parce que nous je pense qu'on est plus écoutés par des consommateurs que des producteurs. Comment on peut aussi encourager les consommateurs sans tout mettre sur les producteurs pour faire cette transition écologique?
Alors dans le rapport il y a beaucoup de recommandations explicites. On a notamment proposé pas mal de mesures pour les outils qui vont être mis en place prochainement, la loi d'orientation agricole qui est en préparation, le plan stratégique national d'adaptation de la politique agricole commune, la stratégie nationale bas carbone, les mesures de la planification écologique. Donc on a fait des recommandations très concrètes qui se distribuent entre des recommandations d'incitation notamment réorientation d'aide de la politique agricole commune, ou vous voyez, des incitations à agir, mettre un prix, organiser le marché carbone pour que les agriculteurs qui stockent plus de carbone dans leur sol reçoivent un paiement pour ça. Et donc là, c'est plus de l'ordre de l'incitation, comment organiser le cadre pour que lorsque un industriel veut acheter du crédit carbone, il puisse acheter du crédit carbone chez l'agriculteur de sa région parce que c'est certifié, parce que c'est tracé. On a fait des recommandations du type innovation. Vous voyez par exemple la gestion des effluents d'élevage, si on couvre les fosses, si on applique les engrais plus précisément, si on ajoute des additifs dans l'alimentation des bovins. Vous voyez, il y a une somme d'innovations, par exemple, pour l'élevage bovin, qui représente à peu près une réduction de 30% des émissions de méthane. Donc, notre rapport, je dirais, est une source à la fois qui récapitule des innovations à favoriser ou des innovations à rendre transférables aux professionnels ou de tous les échelons de la chaîne, des incitations par le marché, c'est-à-dire comment créer un cadre d'incitation par le marché qui va dans le même sens, et puis enfin des adaptations des réglementations ou des aides pour être dirigées en appui aux politiques climatiques. Donc comment faire converger les politiques agricoles et alimentaires avec les politiques climatiques? Finalement, on pourrait presque résumer notre rapport à ce mot-là. Convergence entre les politiques agricoles, alimentaires et climatiques.
Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté les messages clés de ce rapport. Je voudrais qu'on termine sur la crise en cours pour voir comment est-ce que vous analysez cette crise du monde agricole et comment est-ce qu'on va réussir à sortir de cette crise sans pour autant ralentir la nécessaire transition climatique.
Ben, comme toujours dans une crise, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments simultanés et disparates. Si on analyse la crise dans le Lot-et-Garonne, ça n'est pas exactement pareil que d'analyser la crise en Bretagne, par exemple. Dans le Lot-et-Garonne, on a beaucoup de facteurs qui s'accumulent. Hein, si on regarde la situation récente, on a eu dans le sud-ouest la grippe aviaire avec les abattages de volailles, les problèmes donc sur les producteurs en question. On a eu la maladie hémorragique bovine. Là encore, lié au changement climatique, hein, puisque bah, les moucherons qui trimballent cette maladie d'animal à animal sont des moucherons qui viennent du sud et qui maintenant peuvent s'implanter dans le pays à cause des nouvelles conditions climatiques. On a les problèmes de tension sur l'eau, là aussi liés au changement climatique, donc tension sur l'usage de l'eau, avec bien sûr bah, des agriculteurs qui disent qu'ils ne peuvent plus pratiquer certaines cultures si ils n'ont pas une irrigation. Et le fait que, ben, il va falloir faire avec les quantités d'eau prévisibles dans les années qui viennent. Donc, il va falloir retrouver des modes de régulation collective, des discussions entre différents groupes d'usagers de l'eau. Et par ailleurs, retard de paiement des aides de la PAC, visiblement retard de paiement aussi des indemnités sanitaires. Et donc, ben, pour une certaine catégorie, et notamment les éleveurs, des difficultés économiques majeures. Donc là, ce sont des circonstances, vous voyez, des circonstances locales, mais qui se sont accumulées et qui ont fait que, de fait, on peut dire que cette zone est en crise et s'exprime très fortement. Mais quand on va parler de la Bretagne ou quand on va parler des céréaliers du bassin parisien, c'est pas du tout ce ne sont pas les mêmes revendications. Et ça va être pourquoi est-ce qu'on nous demande de mettre 4% en jachère, 4% des surfaces en jachère, alors que par ailleurs, on parle de souveraineté alimentaire et donc de nécessité de produire en Europe. Vous voyez donc que les réclamations, d'une certaine manière, les causes de la crise ne sont pas les mêmes partout en France. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à cette liste assez impressionnante de 140 points de récrimination dans les rassemblés par les syndicats agricoles. Donc oui, c'est une crise multifacteur, mais qui pour certains éleveurs notamment est un cri d'alarme. Est un cri d'alarme. Ils ne s'en sortent plus. Ils ne s'en sortaient plus. Et comme ils vivaient, vous savez que dans l'élevage, notamment l'élevage bovin, les subventions, c'est le revenu. Hein, ils vendent à un prix qui revient à peu près à leur coût de production, et parfois même moins, eh bien, ils n'arrivaient plus du tout à vivre. Donc oui, c'est un cri d'alarme circonstanciel et un cri d'alarme qui se cumule avec deux sentiments plus difficiles à cerner et qu'il faut pourtant entendre, qui sont cette impression d'être tout le temps critiqués dans le milieu rural par leurs voisins, tout le temps critiqués pour leur pratique professionnelle. Et cette impression, oui, qu'ils ont des paperasses infinies à remplir pour tout et qu'il y a une espèce de suspicion envers eux. Donc, il y a un fond d'expression de ras-le-bol de marginalisation sociale et de ras-le-bol des papiers, et puis circonstanciellement des vraies difficultés pour tel ou tel segment des professionnels.
Eh bien, merci beaucoup Marion Guillou d'avoir été notre invitée aujourd'hui, et on suivra évidemment la suite de cette crise et les solutions qui y sont apportées. En attendant, un grand merci comme d'habitude à Alexandre Carrier, Karim Baldé et Fabrice Létifier pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes. Un grand merci également à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner, laisser des étoiles. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ou nous envoyer un email, leclimatenquestion@ecomail.fr. À très bientôt pour un prochain épisode.